BFM Business présente.
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, mais alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Allez, 19h, c'est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Donc, on le disait ce soir, ça se corse hein, vraiment pour les grandes plateformes de crypto-monnaie internationales, puisqu'après Binance hier, c'est Coinbase qui se retrouve dans le viseur des autorités boursières américaines. On va vous raconter ça, on va aller à Washington d'ailleurs dans un instant. Hein.
Et puis, on parlera aussi ce soir de cette étude qui est sortie aujourd'hui et qui affirme, chiffre à l'appui, que les milliardaires sont moins imposés que les autres contribuables. Alors, étude qui va relancer évidemment bien des débats au moment où l'on reparle de la taxation des hauts revenus et on en parle dans un instant avec l'un des auteurs du rapport.
Ouais, la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on a des premiers chiffres qui arrivent. 900 000 personnes dans les rues d'après la CGT, 280 000 manifestants. Vous voyez que le compte n'est pas
les mêmes chiffres.
Non, comme toujours. C'est le secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona, qui sera avec nous tout à l'heure pour tirer les enseignements de cette nouvelle journée d'action.
Et puis 19h30, c'est la grande interview avec Edwige Chevrillon qui reçoit ce soir Patrick Martin, le président délégué du MEDEF, qui est candidat à la présidence, justement, du MEDEF, 19h30.
Voilà le programme, on est ensemble, bien sûr, jusqu'à 20h.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc oui, les taux qui commencent sérieusement à se resserrer autour des grandes plateformes de crypto-monnaie. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington pour BFM Business. Ça se resserre parce qu'après Binance hier, c'est Coinbase qui est désormais dans le viseur des autorités boursières américaines, Antoine.
Oui, alors ça fait un moment que le gendarme américain de la bourse veut mettre au pas les cryptos et ces dernières 24 heures, la SEC est passée à l'offensive de façon assez spectaculaire. Elle attaque deux géants du secteur, Binance hier et puis aujourd'hui nouvel assaut, cette fois contre Coinbase. Dans les deux cas, la SEC porte plainte pour non-respect des règles. Coinbase est accusé de vendre des actifs financiers sans autorisation. Quant à Binance, on lui reproche de ne pas avoir enregistré ses activités aux États-Unis. La plateforme n'aurait donc pas le droit de proposer ses services aux client américain. Le patron de Binance est personnellement visé par cette plainte, accusé de tromperie. Selon la SEC, il savait qu'il était en faute, mais il aurait délibérément choisi de passer outre. Tout l'enjeu de ces procédures, c'est finalement de mettre fin au Far West des plateformes de crypto. La SEC veut les contraindre à appliquer les mêmes règles que la finance traditionnelle. C'est la priorité du patron de l'agence. Il multiplie les actions contre les plateformes ou les influenceurs qui font la promotion des cryptos. Tout cela alors que les États-Unis tardent à encadrer le secteur. Républicains et démocrates n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur cette question au Congrès.
Voilà Antoine Hollard à Washington pour BFM Business, les autorités boursières américaines qui haussent le ton, même si on est là sur deux histoires, deux affaires bien différentes. C'est ce que nous rappelait Raphaël Bloch tout à l'heure de The Big Whale. Écoutez son analyse.
En l'espace de 24 heures, donc deux des plus gros acteurs de la planète, hein, des plateformes d'échange de crypto-monnaies, donc sont la cible de la SEC. Il faut juste avoir en tête une chose, c'est que ce sont deux dossiers bien différents.
Oui.
Binance est un acteur mondial. Effectivement, dans la plainte qui est tombée hier de la part de la SEC, il y a 13 infractions. Il y a du pénal, il y a des éléments qui concernent le dirigeant. Enfin voilà, le dossier est assez lourd. Et là, aujourd'hui, ce qui concerne Coinbase, alors qui est une entreprise américaine, cotée à Wall Street, là, si vous voulez, on est sur quelque chose d'un peu plus circonscrit en termes, j'allais dire, d'ampleur du dossier, parce que Coinbase est poursuivi tout simplement parce que eh bien les crypto-monnaies qu'il propose à la vente eh bien sont considérées par la SEC, et c'est un débat... qui est récurrent aux États-Unis, sont considérés comme des titres financiers.
Voilà, voilà Raphaël Bloch, The Big Whale, qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. En France, je vous le disais, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Déjà des chiffres qui commencent à tomber. La CGT annonce que 900 000 personnes ont défilé dans les rues au plan national aujourd'hui. 900 000 pour la CGT, 281 000 manifestants seulement d'après les autorités. On parlera avec Dominique Corona, le secrétaire général adjoint de l'UNSA, qui sera avec nous dans une dizaine de minutes sur BFM Business. Il est 19h05, en France toujours, les pilotes de ligne aussi sont en colère. Le principal syndicat de la profession, le SNPL, a tenu une conférence de presse aujourd'hui, pas pour parler revendications salariales, mais parce qu'il s'inquiète de la montée en puissance des programmes d'intelligence artificielle dans les cockpits des avions. Ça, les pilotes n'apprécient pas du tout. Jean-Baptiste Huette. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Oui, mais peut-être plus qu'un seul. Et c'est justement ce qui pose un problème au SNPL, le principal syndicat de pilotes en France. Depuis plusieurs années, les constructeurs d'avions, Airbus en particulier, introduisent à bord des appareils des systèmes informatiques de plus en plus performants. Et très récemment, on a vu notamment apparaître le programme Dragonfly. Imaginez un avion capable de prendre le contrôle en cas de malaise des pilotes, de se dérouter seul en cas de problème météo, de communiquer avec le contrôle aérien, se poser seul et rejoindre son point de parking seul. Voilà qui donne des sueurs froides aux pilotes. Aujourd'hui, deux pilotes sont à bord des avions, chacun veille l'un sur l'autre en croisant chacune des procédures. On appelle ça le cross-checking, durant les longs courriers notamment. Pendant ces vols, l'un peut se reposer pendant que l'autre est aux manettes. Or, s'interroge le SNPL, est-ce qu'une intelligence artificielle serait capable de poser un avion sur la rivière Hudson, comme on l'a vu il y a quelques années à Manhattan ? Est-ce que les passagers vont accepter de monter dans un avion piloté par une intelligence artificielle pendant 8 heures avec un seul pilote ? Non, nous dit d'ailleurs le SNPL, qui brandit pour l'occasion un sondage au Doxa. Plus de 80% des Français interrogés seraient réservés sur cette question. Pour le SNPL, la montée en puissance de ces intelligences artificielles et le single pilot, c'est comme ça qu'on l'appelle, n'est qu'une question de business au détriment de la sécurité. Dans l'aviation, conclut le syndicat, le maître mot, c'est la redondance, c'est-à-dire la duplication des composants, plusieurs moteurs, plusieurs génératrices, les ordinateurs qui sont doublés. Alors pourquoi pas avec les pilotes ?
Voilà, monteriez-vous dans un avion en partie piloté par une intelligence artificielle ? C'est une question qui fait sens, effectivement. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. Puis dans le secteur aérien, toujours encore beaucoup de rumeurs à quelques jours du début du salon du Bourget. On vous parlait hier des intentions supposées d'Air Indigo et de Turkish Airlines. Ben aujourd'hui, c'est le patron d'Emirates qui a déclaré que son groupe pourrait commander davantage d'A350 et davantage de Boeing qui ne le pensait à l'origine. Salon du Bourget qui débute dans deux semaines. BFM Business y sera, bien évidemment. Et puis, on va parler pharma, puisque figurez-vous qu'à Chicago se termine aujourd'hui le grand rendez-vous annuel de l'oncologie. Les Big Pharma en ont profité pour montrer leurs dernières innovations en matière de lutte contre le cancer. Le cancer qui, on vous le confirme, est devenu le premier marché mondial dans le secteur pharmaceutique aujourd'hui. Hélène Cornet.
Les résultats sont souvent qualifiés d'impressionnants ou de révolutionnaires. S'il faut se méfier des effets d'annonce, beaucoup de présentations sont porteuses d'espoir pour les malades du cancer, comme ce traitement d'AstraZeneca qui réduit la mortalité de 50% pour les patients atteints du cancer du poumon, ou le vaccin personnalisé contre le cancer de la gorge de la biotech alsacienne Transgène. Un véritable bond en avant permis par les récents travaux dans l'immunothérapie ou les anticorps conjugués. L'oncologie, un domaine sur lequel se positionnent tous les laboratoires, même ceux qui n'avaient jusqu'à présent jamais réellement misé sur cette terre thérapeutique comme Servier. C'est devenu la priorité stratégique des Big Pharma. Les ventes anticancéreux pourraient dépasser les 300 milliards de dollars en 2026, selon les prévisions du spécialiste des données de santé IQVIA. On a connu un pic d'innovation dans les maladies cardiovasculaires dans les années 2000. Les années 2020 seront celles des innovations contre le cancer.
Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h09, on retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Petite clôture pour le CAC 40 qui n'a pas beaucoup bougé en fin de séance, puisque le CAC 40 grappille 0,11%, 7209 points. Bonsoir Sabrina. Sabrina Cagliuzzi avec nous depuis New York pour BFM Business. Comment ça se passe chez vous à la mi-séance, Sabrina ?
Écoutez, c'est très très calme ici aussi sur ces marchés américains qui hésitent depuis l'ouverture entre la hausse et la baisse après avoir reculé hier dans le sillage de la baisse notamment d'Apple. Apple qui d'ailleurs continue sur sa glissade, moins 0,7%, 178,38$ avec un bureau d'études qui a abaissé sa recommandation sur le titre. C'est assez rare, passant de l'achat à neutre sur la valeur après la présentation notamment de son casque de réalité mixte. Le titre Apple, donc, qui est actuellement à 178,42$. Les autres valeurs, Coinbase, bien sûr, et cette forte baisse de 13,5% pour la plateforme. Après les annonces autour du gendarme boursier américain, la SEC, qui a décidé de poursuivre la plateforme de crypto en justice. Le titre, donc, en baisse de 13%. Notre à l'inverse, la belle hausse de GitLab dans le secteur technologique au chapitre des résultats, plateforme de création de logiciels à la sauce intelligence artificielle. Le groupe a publié ses résultats trimestriels, une perte moins lourde que prévu, un chiffre d'affaires qui s'est envolé de 45% et des prévisions solides. Résultats en bourse, eh bien, le titre s'envole de 31%, 46,38 $ dans un marché donc qui est très très calme. Le Dow Jones inchangé, 33 547 points. Le S&P 500 proche de ses plus hauts de 9 mois est actuellement en légère progression, 0,09% à 4 277 points. Quant au Nasdaq, c'est une progression de 0,16% pour l'indice à 13 253 points.
Merci beaucoup Sabrina. On vous retrouve toute la soirée évidemment pour faire le point sur cette fin de séance du côté de Wall Street. 19h10, on marque une petite pause. 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On va en parler avec le secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona, avec nous dans un instant. Puis cette étude de l'Institut des politiques publiques, ça tombe mal pour le gouvernement qui nous dit que oui, si l'écrasante majorité des Français ont un info progressif, pour les plus aisés, ça devient régressif pour le coup. Pas bon, effectivement, dans le climat actuel. À tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
Allez, 19h14 sur BFM Business, je vous le disais, hein, 14e journée d'action contre la réforme des retraites qui est en train de se terminer. Les chiffres commencent à arriver.
Alors, ils ne sont pas tous les mêmes, les chiffres,
Guillaume. Comme toujours, et oui, c'est souvent comme ça. 900 000 manifestants d'après la CGT, 280 000 d'après les autorités. On est en ligne avec Dominique Corona, qu'on connaît bien, qui est souvent avec nous sur ce plateau, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Bonsoir Dominique, merci d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. On entendait ce matin Laurent Berger dire le match est sur le point de se terminer. Alors, sous cette forme-là, est-ce que, comme on l'entend dire, la prochaine bataille, ça va être une bataille d'ordre juridique? Est-ce que, comme on l'entend dire, vous allez attaquer les décrets là, qui commencent à sortir au journal officiel sur cette réforme des retraites? Est-ce que c'est ça la suite, Dominique?
Ça fait partie des solutions, effectivement, que nous avons dans notre besace, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Effectivement, j'ai toujours dit que l'exécutif avait perdu, que nous n'avions pas totalement gagné. Mais il est clair qu'effectivement, tous les outils qui sont dans nos dispositions, nous les utiliserons, donc nous analyserons les décrets. Et effectivement, nous verrons s'il y a de quoi attaquer.
Mais
toutefois, nous espérons toujours que jeudi, il puisse y avoir un vote, parce qu'il me semble important, à l'UNSA, qu'il y ait un vote sur cette loi. Nous voulons que les parlementaires puissent s'exprimer, comme nous l'avions souhaité pour l'article 7, avant effectivement le 49.3.
Dominique, certains syndicats semblent dire quand même que certains décrets posent finalement d'ores et déjà des problèmes, et que finalement, cette loi, elle ne peut pas de ce fait s'appliquer dès 2023. Est-ce que vous en faites partie ?
Oui, bien sûr, on voit bien qu'il y a des tas de difficultés. Même les entreprises, les employeurs sont confrontés à des difficultés. Quand vous aviez, par exemple, aujourd'hui, des gens qui étaient en, avec des CET, avec effectivement des comptes épargne-temps, qui avaient pris déjà des congés en se disant « je vais terminer ma carrière », il leur manque un mois, deux mois, trois mois. Donc, il y a des difficultés. Donc oui, effectivement, il faut regarder tout ça, mais les employeurs ne sont pas prêts, le gouvernement n'est pas prêt, personne n'est prêt. Et puis, je vais vous le dire, très clairement, le gouvernement dit qu'il a fait cette réforme pour des questions financières. Si on ne traite pas, et je n'arrête pas de le dire, la problématique de la pénibilité très rapidement, la problématique de l'invalidité, la problématique de l'emploi des seniors, on va transférer simplement d'une caisse à une autre les problèmes financiers. Et personne n'aura rien réglé. Donc on a intérêt très très vite à négocier avec les employeurs et aussi avec l'État, ces sujets-là, parce que les Français nous attendent.
On aura une question sur le projet Lyot dans un instant, Dominique, mais est-ce que vous faites le constat ce soir qu'après, finalement, quelques 5 mois de conflit, 14 journées de grève, finalement, les syndicats n'ont pas réellement réussi à faire plier le gouvernement sur ce dossier?
Oui, je ne vais pas dire que le gouvernement a plié, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a perdu, et que nous n'avons pas gagné. C'est totalement différent. Il a perdu sur toute la ligne. Il a perdu auprès des députés, il a perdu auprès des citoyens français, il a perdu auprès de l'ensemble de la population. Donc vous voyez bien que plus rien ne sera comme avant, je ne cesse de le dire. Certes, nous n'avons pas gagné, mais nous avons redoré clairement notre blason. Nous avons démontré notre capacité à faire bouger les lignes, qu'on le veuille ou non, et à faire trembler un peu l'exécutif. Parce qu'il n'a pas été serein, et il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Donc j'avais dit sur votre plateau, Guillaume, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et après, cette formule a été reprise, que tout sera plus cher dorénavant.
Oui.
Je vous le dis, tout sera plus cher dorénavant.
Dominique, mais concernant le projet Lyot, on le sait, la mesure phare qui vise à rétablir l'âge légal de départ à 62 ans a été rejetée par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée parce qu'elle a été jugée inconstitutionnelle. Donc, sur ce sujet, le gouvernement a eu gain de cause.
Non, elle a été rejetée parce que les membres de la commission ont enlevé l'article. Et l'article peut être remis par amendement. Et la présidente de l'Assemblée nationale dira est-ce qu'elle applique l'article 40 ou non. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir un vote. Nous ne cessons de le dire. Nous pensons qu'il est important sur un sujet qui impacte des millions de Français que la représentation nationale puisse s'exprimer. Nous, on veut voir qu'effectivement, le recul de la GIAL, qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, ça manque cruellement quand même, qu'on le veuille ou non.
Il y aura un vote, mais sans la mesure phare, Dominique. Est-ce que ce n'est pas un débat un peu tronqué comme vous, pour vous, quand même?
Donc, il n'y aura pas de vote. Si effectivement, il n'y a pas la mesure phare, qui est effectivement le report de l'âge légal, l'accélération de la durée de cotisation, ça veut dire qu'il n'y a pas de vote. C'est-à-dire qu'une fois de plus, le gouvernement ne veut pas aller jusqu'au bout de la logique. De quoi a-t-il peur? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Regardez-vous, son dans la rue, il n'a pas plié, il est allé jusqu'au bout. Oui. Mais moi, je dis au gouvernement, allez jusqu'au bout, faites voter, et nous verrons bien le résultat. Ce n'est pas très grave.
Donc, nous verrons effectivement, jeudi, ce qu'il reviendra lors du vote à l'Assemblée nationale sur ce projet de Lyotte.
Mais ce n'est pas terminé, Guillaume. Je vous assure, je pense que la bataille va prendre une autre forme. Mais il y a des tas de sujets qui vont revenir sur le devant de la scène et l'intersyndicale a décidé de travailler sur ces sujets ensemble. Oui. Donc vous voyez, il va y avoir des gains pour les travailleurs, les travailleuses de ce pays et le gouvernement sera bien obligé de nous écouter et de négocier avec nous.
Avec plein de sujets qui vont arriver dans la foulée, on a parlé effectivement pouvoir d'achat, on a parlé conditions de travail et autres et on en reparlera bien sûr très largement. Merci beaucoup Dominique, merci d'avoir été avec nous. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA avec nous ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup, 19h20, on va parler fiscalité avec cette étude qui fait beaucoup jaser, Audrey, aujourd'hui. Hein.
Et oui, on en parle tout de suite avec le co-auteur justement de cette étude portée par l'Institut des politiques publiques. Bonsoir Laurent Bach.
Bonsoir.
Bonsoir, M. Bach.
Alors, merci d'être avec nous ce soir pour parler justement de cette étude qui arrive finalement au moment où le débat sur les retraites est encore sur la table. Alors, votre étude, il faut le dire, elle est issue des chiffres de 2016 et elle démontre finalement, tout simplement, que les milliardaires sont les contribuables les moins imposés. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est la conclusion principale?
Alors, ils sont imposés à un niveau conséquent, mais moins
que les autres.
Des gens plutôt riches, mais pas aussi riches qu'eux.
C'est ça.
Voilà. C'est ça. Il reste une progressivité en France. Il y a des gens qui payent beaucoup d'impôts en France, plus souvent parmi des gens qu'on considère riches, mais entre les riches eux-mêmes, les plus riches d'entre eux payent beaucoup moins d'impôts.
Donc il y a progressivité pour 99,9% des contribuables. Dès qu'on arrive sur les 0,1% restants, c'est là que la tendance s'inverse. C'est ça, monsieur Bach.
Quand vous êtes autour de 600 000 euros de revenus, c'est là que vous payez le maximum d'impôts.
Oui.
Mais à la suite de ça, votre taux d'imposition diminue.
Parce que la structure des revenus est différente quand on arrive à ces niveaux, c'est ça l'idée.
Tout à fait. Oui. À partir d'un certain moment, passé ce niveau, vous êtes de plus en plus possesseur de sociétés, contrôleur de sociétés, de groupes familiaux. Et dans ce cas-là, le principal impôt que vous payez, c'est l'impôt sur les sociétés.
L'impôt sur revenus, oui.
Parce qu'en réalité, vous n'avez plus besoin de vous distribuer autant de dividendes pour soutenir votre train de vie. Il peut y avoir des entrepreneurs avant ces niveaux et ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés, mais ils doivent aussi se distribuer pas mal de dividendes pour vivre. Et dans ce cas-là, ils payent beaucoup d'impôts. Voilà.
Mais alors donc, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que sur la base de cette étude, votre préconisation, c'est de dire qu'il faut justement aller plus taxer ces gens-là? Mais si oui, comment?
Alors, et ce qui est certain, c'est que il faut comprendre les mécanismes qui ont mené à ça. Ça n'a pas toujours été comme ça, ce qui veut bien dire que c'est pas forcément quelque chose de désirable dans l'absolu. Il y a 30 ans, les stratégies qui ont été mises en place pour aboutir à ce résultat n'étaient pas faisables parce que le taux de l'impôt sur les sociétés était beaucoup plus élevé, beaucoup plus comparable au taux de l'IR. Depuis, il est devenu beaucoup plus intéressant de loger des holdings intermédiaires entre votre entreprise qui crée la richesse et vous-même en tant que ménage. Il y a des solutions, comme par exemple aux États-Unis. En fait, les holdings sont taxés directement. Si vous avez des holdings à caractère purement financier, il y a une surtaxe d'impôt sur les sociétés sur elles, une sorte d'aspirateur à dividendes, qui fait que vous êtes obligé de faire remonter tout ce qui vient de l'entreprise non financière vers le ménage. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. C'est des mesures qui ne sont pas complètement exotiques. Par ailleurs, il existe déjà en France des sociétés de personnes dans lesquelles les actionnaires sont taxés sur l'ensemble du résultat de la société et pas seulement sur ce qui se distribue. C'est des sociétés de personnes qui existent depuis des centaines d'années, depuis 150 ans. Simplement, elles sont tombées en désuétude justement parce que l'impôt sur les sociétés est devenu très très bas. Il est devenu beaucoup plus intéressant de faire autre chose.
On est dans la moyenne européenne aujourd'hui à 25%.
Alors, c'est ça. ce qu'on dit, c'est pas que en fait la France est un paradis fiscal supérieur à celui de des autres pays européens. Pour les milliardaires, en fait, probablement la situation est la même ailleurs en Europe, parce qu'il y a le même décalage entre l'IS et l'IR, il y a la même facilité pour monter des holdings. Donc en réalité, la situation est partagée.
Ça veut dire que, au fond, rétablir l'ISF sous sa ancienne forme ne serait pas la meilleure façon de taxer les revenus, contrairement à ce que certains réclament à U et à Dia.
Le problème principal de l'ISF dans la façon dont il a été mis en application en France, c'est qu'on a dit, en réalité, vous ne devrez payer l'ISF que si vous avez suffisamment de revenus.
Oui.
Pour des raisons qu'on peut comprendre. Oui. Vous ne voulez pas forcer les gens à vendre leur part pour le payer. Le problème, c'est comment est-ce que vous définissez le revenu des gens qui sont soumis à cet impôt. Et en l'état actuel, on a une définition du Conseil constitutionnel qui est très restrictive. Pour ces gens dont on parle, le revenu considéré comme revenu par le Conseil constitutionnel et représente de fait quelques points de pourcentage de leur revenu réel.
Laurent Bach, parce que cette étude, elle s'intitule « Quels impôts les milliardaires payent-ils ? » Ça aurait été intéressant de la compléter avec « Quelles richesses les milliardaires créent-ils ? » Parce qu'évidemment, ils sont à la tête de conglomérats, d'entreprises très importantes, et donc ils créent des emplois, ils créent de la dynamique. Est-ce que en allant taxer ces gens-là, on n'a pas un risque finalement qu'ils basent leur foyer fiscal ailleurs qu'en France ?
Alors, c'est vrai qu'on est forcément un peu dans l'inconnu, parce que c'est un type de personne, de ménage, qui peut avoir des réactions très spécifiques. Cela étant dit, autant vous pouvez déplacer votre résidence fiscale personnelle facilement, simplement en allant de Paris à Londres ou à Bruxelles, il est beaucoup plus difficile de déplacer vos sociétés qui resteront soumises à l'impôt sur les sociétés.
Non, mais c'est pour ça que je parle du foyer fiscal de la personne en question.
Mais dans l'état actuel, en fait, ce que justement on montre, c'est que ces gens ne payent que l'impôt sur les sociétés.
Oui.
Tant que la société ne part pas de France, les actifs ne partent pas de France, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est qu'elles continuent finalement à ne payer que l'impôt sur les sociétés. Et au lieu de payer 1% de leurs revenus en IR français, elles paieront 1% de leurs revenus en IR belge ou anglais.
Voilà, donc l'étude du jour dont on a beaucoup parlé, sur lequel vous les alertez aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent Bach, merci de passer nous voir, co-auteur de cette étude de l'IPP avec Antoine Bozio, Arthur Guilouzuic et Clément Malgouir. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir sur BFM Business. 19h25, 26 même.
Et voilà, tel un soleil, Edwige Chevrillon nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Audrey, bonsoir Guillaume.
Bonsoir Edwige.
Votre invité ce soir,
Patrick Martin, candidat à la présidence du MEDEF. Justement, on discutait, puisqu'il arrive. Il était coincé dans les manifs. Ça tombe bien, je lui poserai la question sur les retraites. Est-ce que c'est un barreau d'honneur ? Est-ce que c'est terminé ou pas ? Et puis ensuite, je lui poserai la question sur est-ce qu'il faut taxer les super riches ? Est-ce qu'il faut un impôt vert ? Et puis on parlera de son programme, et puis on parlera de Dominique Carlac. Après tout, est-ce qu'il est prêt à lui tendre la main en cas de victoire ?
Alors, est-elle prête à accepter sa main ?
Ah ben, on verra, c'est aussi dans les deux sens, vous savez, voilà. Audrey.
Vous m'avez rappelé le grand débat en direct le 26 juin sur
BFM,
entre un concurrent, puis l'élection, je crois que c'est le 6 juillet. Donc, on est vraiment dans la dernière droite. Patrick Martin, invité d'Élie Chevrillon, dans un instant, la grande interview, 19h30, 20h. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h, pour de nouvelles aventures.
Et comme tous les soirs, l'émission est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Bonne soirée. Et tout de suite, c'est la grande interview.
À demain.
BFM Business, l'info éco.
À 19h30, soyez les bienvenus à la une. La SEC en guerre contre les plateformes de crypto-monnaies. L'autorité américaine des marchés financiers a signé aujourd'hui Coinbase pour non-respect de la régulation. Hier, elle avait déjà entamé des poursuites judiciaires à l'encontre de Binance, cette fois-ci notamment concernant l'utilisation des fonds des utilisateurs. La SEC a décidé de serrer la vis, faute de voir le Congrès américain définir un cadre législatif sur la régulation des crypto-monnaies. 900 000 manifestants en France selon la CGT, trois fois moins selon les autorités. Cette 14e journée contre la réforme des retraites a moins rassemblé. Le niveau de participation est le plus faible depuis le début de la contestation. Selon Laurent Berger, le match est en train de se terminer. La contestation doit prendre d'autres formes, selon le secrétaire général de la CFDT. Et il appelle les syndicats à peser dans le rapport de force à venir sur les autres sujets. La Banque mondiale relève sa prévision pour la croissance mondiale pour cette année à 2,1% contre 1,7% estimé précédemment grâce à une meilleure résistance des grandes puissances économiques. Mais l'institution est plus pessimiste pour l'année prochaine. Elle abaisse sa prévision de croissance du PIB mondial à 2,4% en raison des effets des politiques de resserrement monétaire. Plus de 17 000 civils évacués en Ukraine autour du barrage de Kavkova. La destruction de la centrale hydroélectrique ce matin menace des dizaines de villages. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'en être responsables. Volodymyr Zelensky réclame aujourd'hui une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans l'actualité des entreprises, Shell se déleste de la distribution d'énergie aux particuliers au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas. Une décision qui a été prise à l'issue d'une revue stratégique entamée en début d'année. La cession est déjà en cours et cette activité avait particulièrement souffert au Royaume-Uni avec l'explosion des prix de l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine. Shell était le fournisseur d'1,5 million de foyers britanniques. Et on termine avec cette enquête ouverte notamment pour extorsion en bande organisée après cette cyberattaque visant voyageurs du monde. Les données de 10 000 passeports ont été piratées. Des copies de certains documents ont été diffusées sur le dark web à la fin du mois de mai. Le groupe de hackers a exigé une rançon que l'agence de voyage a refusé de payer. Petit rebond pour le CAC 40 ce soir, plus 0,11%, clôture à 7209 points. 19h33, restez avec nous. Vous retrouvez tout de suite Edwige Chevrillon et son invité pour la grande interview.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois Patrick Martin, candidat à la présidence du MEDEF. Bonsoir Patrick Martin.
Bonsoir.
Vous êtes venu ici comme vice-président, vous êtes venu ici plusieurs fois évidemment. Là, la donne a un peu changé parce que vous êtes donc candidat à la présidence du MEDEF. Face à vous, une femme, Dominique Carla, que j'ai reçue aussi dans les mêmes conditions. Et puis avec la date butoir qui sera le 6 juillet et avant vous viendrez débattre le 26 juin face à Dominique Carla, ici dans les studios de BFM Business. Beaucoup de questions à vous poser sur votre programme, sur ce que vous voulez du MEDEF. J'ai noté que vous vouliez un MEDEF un peu différent de celui existant. Vous nous direz comment, pourquoi, qu'est-ce que n'a pas fait Geoffroy de Roubaixieux, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, puisque vous étiez aussi en charge. On va commencer par deux, trois questions d'actualité forte. Vous avez vu, peut-être suivi les manifestations, 14e manifestation contre la réforme des retraites. On voit que c'est le taux de participation le plus bas, en fait. Est-ce que pour vous, c'est un baroud d'honneur, il fallait le faire? Est-ce que pour vous, la réforme des retraites, ça y est, c'est plié, c'est derrière vous, derrière nous?
Je pense et je souhaite que ce soit derrière nous. Je crois que tout a été dit. On a vu que la mobilisation sociale n'avait pas produit d'effet. Elle était relative dans le privé. Elle a même été assez faible dans le privé. Donc voilà, il y a un moment où il faut que ça atterrisse.
Oui, mais parce que c'est plus difficile de faire grève dans le privé.
Pourquoi?
Parce que dans le public, c'est plus facile, c'est plus accepté que dans le privé.
Ah non, enfin sincèrement, je vois pas pourquoi. Non, enfin les entreprises privées respectent la légalité, ne peuvent pas empêcher qui que ce soit d'aller faire grève.
Oui. Donc pour vous, c'était surtout le public en fait qui faisait grève.
C'était surtout le public. Je me garde de penser que les salariés du privé adhéraient à la réforme. Il y a une manière de résignation de leur part, mais je le redis, il y a eu très peu de mobilisation dans le privé depuis le départ.
Est-ce que vous pensez que donc le gouvernement a eu raison de passer en force? Est-ce que vous, et même on voit qu'il y aura cette discussion jeudi prochain à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi, le projet de loi d'Illiott. Oui. Est-ce que vous trouvez que ce serait bien qu'au moins une fois l'Assemblée nationale vote pour cette réforme des retraites?
On va pas réécrire le film. Il y a probablement eu des maladresses dès l'origine, d'ailleurs, dans la présentation, ne serait-ce que des finalités de cette réforme. Il y a eu un peu de flottement. Bon, voilà, ça s'est produit ainsi. C'est assez malheureux parce que ça a contribué aux crispations dans le pays. Mais je le redis, il faut que ça atterrisse maintenant. Après, moi, je suis pas constitutionnaliste. Je sais pas si le projet de loi Elliott pourra simplement être voté. Moi, je le souhaite pas.
Ouais. Vous ne souhaitez pas, d'accord. Au moins, c'est clair. Est-ce que vous nous dites, de toute manière, il faudra une autre loi une autre réforme des retraites, c'est insuffisant?
Je crains qu'il faille une nouvelle loi sur la réforme des retraites, parce qu'il y a des données fondamentales démographiques, tout simplement, qui conduisent à penser que ce sera nécessaire. Et qu'à partir de là, d'ailleurs, le fait d'avoir un peu vidé de sa substance, de son rendement financier, la réforme, avant même qu'elle soit présentée au Parlement, ne fera qu'accélérer en quelque sorte la prochaine échéance. Mais on a d'autres solutions, on a notamment la solution des retraites par capitalisation.
Oui, vous êtes favorable aux fonds de pension, vous pensez que d'une manière ou d'une autre, il faudra que la France y arrive.
Moi, ça fait partie de ces nombreux sujets tabous, idéologisés. Ouais. Il y a quand même une distorsion de traitement entre le public où il existe des retraites par capitalisation et le privé. Je pense qu'à un moment donné, tout simplement parce qu'il va falloir financer non seulement les retraites, mais l'économie du pays, singulièrement la la révolution environnementale, on aura besoin de ces retraites et c'est pas un sujet tabou.
Autre actualité extrêmement forte, parce que derrière il y a une crise qui se profile, enfin qui est déjà là, hein, c'est la crise du logement avec des propositions qui étaient très 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 attendues. Après le CNR consacré justement au logement, Elisabeth Borne a fait des propositions, c'était lundi, donc avant-hier, c'était hier, pardon, des propositions qui n'ont 16 propositions sur les 200 qui avaient été proposées justement par le Conseil national de la refondation consacré au logement. Est-ce que pour vous, ce sont les bonnes réponses? Vous avez, parmi vos soutiens, vous avez beaucoup de fédérations du BTP, du logement. Est-ce que pour vous, c'est la bonne réponse ou est-ce que ça va un peu à côté?
Non, c'est pas par clientélisme que je vais dire ce que je vais dire.
Ça veut dire que vous connaissez bien, quoi.
Oui, voilà, je connais bien le sujet. Ça fait des mois et des années que je m'intéresse à ce sujet dont tout le monde n'a pas conscience que, bien sûr, il intéresse directement la filière construction, mais il intéresse le pouvoir d'achat, il intéresse la mobilité sociale des Français. Et donc, on a un marché extrêmement tendu. On a 2 400 000 Français qui attendent un logement social. C'est une situation intenable. Les réponses qui ont été apportées sont très timides, elles sont très insuffisantes au regard de cet enjeu.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu en plus? Je ne sais pas, encadrer le foncier, bloquer les loyers. C'est quoi vous, les préconisations?
Non, mais d'abord, il faut faire revenir
l'investissement. Candidat à la présidence du MEDEF.
Oui, il faut faire revenir l'investissement vers le logement. Très sincèrement, à l'heure actuelle, si vous êtes un investisseur privé et que vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, vous ne gagnez pas d'argent en investissant dans l'immobilier. Avec les taux, avec le renchérissement des coûts de construction, avec des loyers plafonnés ici ou là, ça n'est plus rentable. Après, effectivement, il faut réintéresser les élus locaux à la construction. C'est un effet pervers de la suppression de la taxe d'habitation, qui est compensée d'ailleurs par certains élus par une augmentation de la taxe foncière.
Oui.
Donc ça vient encore altérer le rendement de l'investissement immobilier. Donc on a toute une palette de solutions. Il y a le statut du bailleur privé, qui je pense est une bonne solution, qui permettrait de défiscaliser partiellement les revenus immobiliers. Donc voilà, et le gouvernement a une vision un peu, comment dire, un peu étriqué de ce sujet du logement, strictement budgétaire et d'ailleurs un peu occulté, hein, c'est-à-dire
C'est ma question d'après, ouais, hein, du reste.
Ouais. Oui. Bon, alors je l'anticipe.
Non, mais allez-y, je vous en prie. Répondez à ma future question.
Voilà. On nous dit la politique du logement coûte extrêmement cher. Enfin, elle rapporte beaucoup. Hein. Je peux vous dire qu'actuellement, avec la baisse des transactions immobilières dans l'ancien, dans le neuf, il y a des départements qui commencent à s'inquiéter parce que c'est une recette essentielle des droits de mutation.
Si vous aviez une mesure.
Ah ben, il faut d'abord réintéresser les maires à la construction. Les maires sous la pression de leurs électeurs. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui. Alors là aussi, c'est une contradiction qu'on se doit de gérer. Moi, je, au titre du MEDEF, si je suis élu, je souhaite qu'on pose ces sujets-là. Les mêmes qui déplorent que leurs enfants ne puissent plus se loger ne veulent pas qu'on construise à côté de chez eux. Donc il faut que la population, les habitants, les élus, les maires, retrouvent un intérêt à ce qu'on construise, parce que derrière, il faut effectivement des équipements collectifs, des écoles, de la voirie. Ben, remettons ça à plat.
La suppression du Pinel, le recentrage du zéro, est-ce que de manière de faire des économies, hein, parce qu'il faut quand même voir que le budget du logement, c'est important, ça rapporte beaucoup, mais enfin c'est un budget très important comme dans le budget de la France. Est-ce que c'est une manière de faire des économies et vous dites bravo?
Non, le logement rapporte aux finances publiques. Là, on cite le coût net. Brut.
Ouais.
Mais le coût net, c'est un gain pour les finances publiques. Après, est-ce que c'est l'État? Est-ce que sont les collectivités locales? Donc, je pense que c'est une erreur d'appréciation. Et il y a une forme de déni dans les politiques publiques depuis plusieurs années qui conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui est très grave.
Vous voyez, je fais un petit QCR. Le name and shame voulu, souhaité en tous les cas par Bruno Le Maire, pour les industriels qui, dans le cadre de l'agroalimentaire, refusent de venir négocier et de baisser les prix. C'est quoi votre position?
Moi, je trouve que le meilleur name and shame, c'est celui des consommateurs. Si effectivement, à un moment donné, sur une marque donnée, les prix ont trop monté, je pense que les consommateurs savent arbitrer. Et cette espèce de stigmatisation qu'à la moindre occasion, on provoque en désignant les bons, les mauvais, c'est une forme intrusive d'étatisation.
Tiens, à propos de stigmatiser, il y a une note de l'Institut des politiques publiques qui a été rendue, qui est publiée aujourd'hui, hein, qui a été rendue publique par nos confrères du Monde, démontre que pour les Français les plus riches, bizarrement, l'impôt est régressif. Une démonstration qui est étayée en fait par des données fiscales qui proviennent de Bercy. On voit que le taux effectif payé par les 0,1% les plus fortunés, 75 foyers, ben, en fait, à la fin, ils ne payent plus que 26% d'impôts, là où nous, on en paye 46% en tous les cas pour ceux les plus riches. Est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce qu'il faut taxer les super riches? Voilà.
Non, déjà, il y a plus de la moitié des Français qui ne payent plus d'impôts sur leurs revenus.
Ah, mais ça, on est d'accord, voilà. Mais ils ne sont pas concernés.
Après, moi, je m'exprime au titre du MEDEF, en tout cas en tant que candidat à la présidence du MEDEF. Je ne sais pas dire si dans ses fortunes, c'est l'entreprise qui représente l'essentiel du patrimoine, ou s'il y a des patrimoines immobiliers considérables, je ne sais pas répondre. Est-ce que ces actifs sont en France ou à l'étranger? Donc c'est extrêmement compliqué. Il y a un symbole derrière que je ne méconnais pas. Il faut regarder, j'avoue, j'ai pas lu dans le détail cette étude. Il faut regarder ça, mais ça retombe, vous l'avez dit vous-même, ça retombe sur cette stigmatisation des riches. Mais non d'un chien, notre pays a besoin du plus grand nombre possible de riches.
Est-ce qu'il faut le faire payer un peu plus, vu la situation budgétaire de la France, est-ce qu'il faut faire payer les riches plus?
Mais non, ça ne réglera rien. On sait très bien où sont les poches, en quelque sorte, d'économie, ou de gains, plutôt d'économie. C'est sur le train de vie de l'État.
C'est pour
les dépenses courantes de l'État et du régime de santé publique. C'est là que sont. Mais là, on parle de dizaines de milliards d'euros. Si on commence à taxer les riches par dizaines de milliards d'euros, les riches, les super riches, comme vous dites, ils ont une faculté extraordinaire à se déplacer d'un pays à l'autre. Donc, ça ne rapportera rien et ça fera fuir de la richesse de France.
Et en même temps, est-ce que vous trouvez qu'il faudrait créer une sorte d'ISF vert pour financer cette transition énergétique qui va coûter très cher à la communauté, à nous particuliers, mais à vous, entreprise aussi? Est-ce que vous vous dites, oui, on peut avoir le temps, parce que c'est un passage, à cette transition, comme son nom l'indique. Est-ce que vous y seriez favorable pour une période délimitée? Je ne sais pas si elle est courte ou, en tous les cas, à court ou moyen terme.
Je vais être sans ambiguïté, j'y suis totalement défavorable. C'est absolument paradoxal, au même moment où on va avoir besoin de dizaines de milliards d'euros d'investissement, 40 milliards par an pour les entreprises, se verdir,
pour les entreprises.
Que finalement, de ponctionner de la richesse chez les investisseurs. C'est aberrant.
Ouais.
Et c'est démagogique.
Est-ce que vous êtes très libéral? S'il fallait vous, sur le plan économique, vous êtes ici à BFM Business, Patrick Martin, s'il fallait vous caractériser, votre philosophie, elle est quoi? Vous êtes un libéral, un néolibéral? Vous êtes un conservateur? Vous êtes quoi?
Non, je suis un libéral social. Je suis un libéral social, très inquiet de voir l'étatisation de notre société augmenter de jour en jour. J'ai évoqué la santé, mais je pourrais parler d'autres sujets. Et social, en ce sens que, moi je pense que le système capitaliste ne peut pas perdurer s'il n'est pas très social dans ses approches, et si par ailleurs, nous n'avons pas un dialogue social extrêmement riche avec les organisations syndicales, que ce soit en interprofessionnel, dans les branches, dans les entreprises. Je crois que j'ai démontré que je mettais mes convictions en accord avec mes actes.
Oui, et bien c'est comme ça, on fera le lien tout de suite avec votre programme, parce que vous souhaitiez justement un agenda social autonome. Bref, vous dites au gouvernement, restez à votre place et nous, on est à la nôtre, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un agenda social avec les partenaires sociaux. Juste avant, moi, j'ai lu votre programme attentivement, Patrick Martin.
Si.
C'est normal, puisque vous êtes là et vous répondez à nos questions. Je dois reconnaître, on parle de croissance, on parle d'Europe, mais j'ai rien trouvé d'innovant, vous voyez, du truc qui fait tilt. Est-ce que, comme vous-même, vous l'avez dans une tribune, vous dites que c'est un programme issu du collectif. Oui. Vous avez voulu un peu vous cacher derrière ce collectif?
Je crois pas que ce soit mon genre de me cacher. Mais moi, les punchlines, l'innovation médiatique, c'est pas exactement ma tasse de thé, à tort ou à raison. Non, moi, je pense que ce programme, d'abord, il est argumenté, il est puissant. Et il y a une...
Mais la croissance, par exemple, tout le monde veut la croissance.
Mais non, alors j'ai entendu, la croissance, c'est une évidence. Demandez ça à mon ami Jean-Marc Jancovici.
D'accord, vous demandez à part les Verts et Jean-Marc Jancovici, mais sinon tout le monde prône plutôt la croissance.
Non, je suis pas d'accord. Ouais. Je peux vous dire que, y compris dans ma propre famille, il y a, et c'est vrai, à bien des endroits, il y a des jeunes, singulièrement des jeunes diplômés métropolitains, qui sont philosophiquement décroissants dorénavant. Et donc c'est un débat complètement fondateur que de se demander si on s'inscrit dans une trajectoire de décroissance. Je pense que ça serait catastrophique et que ça générerait notamment le chaos politique à la fin. Ou à l'inverse, une croissance responsable, une croissance décarbonée, c'est ma thèse. Et je pense que si on s'accorde singulièrement avec les organisations syndicales en amont, en se projetant sur des horizons de moyen long terme, après il y a beaucoup d'autres sujets qui se régleront beaucoup plus facilement. Je crois ne pas me tromper en disant que les organisations syndicales ne sont pas pour la décroissance, parce que destruction d'emplois.
Oui, je vous dis, il n'y a pas grand monde quand même, à part vous demandez au Vert, à Marie Tondelier ou à Jean-Marc Jancovici, c'est sûr que la question peut se poser.
Non, je vous parle et je les respecte. Il faut les entendre. Je vous parle d'un nombre croissant de jeunes, diplômés plutôt à ce jour, mais ça va probablement se généraliser, et c'est un débat qui est absolument fondateur. Donc voilà, c'est pas pour faire genre, c'est pas marketing, c'est la mère de toutes les batailles.
Mais cette croissance, vous la générez comment?
Mais on la génère précisément en prolongeant la politique de l'offre, en faisant un effort massif sur ce qui est, pour moi, fondateur. Il y a des études très intéressantes de Patrick Artus, de Gilles Berset, qui démontrent que dans des pays qui n'ont pas de ressources naturelles, qui n'ont pas forcément une fiscalité très, très favorable à l'entreprise, formation, compétences, inclusion, c'est le sujet sur lequel, beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusque-là, on doit se mobiliser. Ça génère de la croissance. Je vous le démontre dans la nanoseconde, si vous le souhaitez. Bon, ensuite, il faut qu'on travaille beaucoup plus activement. On se laisse submerger par une espèce de délire réglementaire. Ça a été chiffré, ça coûte 60 à 70 milliards d'euros par an aux entreprises.
Bon, le chiffre, il est un peu... Il n'a pas vraiment été... Enfin, il a été chiffré il y a très longtemps, en fait.
Non, il a été chiffré récemment par l'IFRAP.
Oui. Alors, l'IFRAP, enfin l'IFRAP. Ouais. Ah tiens, l'IFRAP pour vous, c'est... on aime beaucoup Agnès Verdier-Mouligné. Ouais. Mais enfin, l'IFRAP, c'est quand même un think tank qui est assez à droite.
Libéral.
Oui. Libéral. Donc vous vous mettez dans cette lignée-là.
Vous prenez FIPECO, enfin il y a un certain nombre, même l'Institut Montaigne, qui n'est pas de gauche non plus. Hein. Non, je pense que ce sont des gens sérieux, tout ça résulte de travaux approfondis. Alors c'est peut-être pas 70 milliards d'euros, c'est peut-être 50 milliards d'euros, mais la marée monte quand on voit ce qui se trame à l'heure actuelle au niveau européen, ou ce qui s'est fait d'ores et déjà en France avec un certain nombre de lois. On se crée de la complexité matin, midi et soir pour des résultats qui sont souvent dérisoires, voire négatifs.
Dans votre programme, j'ai vu justement que vous proposiez encore une nouvelle baisse des impôts de production. Vous demandez moins 20 milliards, d'ici 2027. Il y a déjà là la suppression de la CVAE qui est dans les tuyaux. En même temps, vous avez entendu les propos du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui dit « Bon, on est dans une course à la baisse d'impôts, maintenant ça suffit, on n'a plus les moyens. » Vous, vous dites « Bah, tant pis, il faut continuer. »
Non, mais il y a l'option rigueur ou austérité, hein, qui est récessive, qui est intrinsèquement récessive. Et puis, il y a l'option qui est une prise de risque, j'en suis conscient, mais enfin, les entrepreneurs sont faits pour ça, prendre des risques. Alors, il n'est pas inutile que les pouvoirs publics en prennent dans certains cas. On a effectivement obtenu 18 milliards en deux temps, 18 milliards de baisse d'impôts. Je crois que c'est vraiment à mettre au crédit du MEDEF sur les cinq années écoulées. Si on veut ne serait-ce que rejoindre la moyenne européenne, il nous faut 20 milliards de plus.
Et vous les trouvez
parler
où
de parler de réindustrialisation, si on travaille pas, je le redis, sur emploi et formation et sur la baisse des impôts de production, c'est un non-sens. On parle pour ne rien dire. On les trouve où ? On les retrouve dans l'efficience de la sphère publique. Tout le monde le sait. Actuellement, il y a des réglages qui sont en cours de préparation. C'est une espèce de jeu de bonneteau. On va donner un peu moins de crédit de ceci et on en donnera un peu plus là. Mais c'est un jeu à somme nulle pour les entreprises. Et on ne traite pas le sujet de l'éléphant au milieu de la pièce que tout le monde connaît, qui est celui du train de vie de l'État et du système de santé.
Oui. En même temps, on voit bien quand même que on peut aussi taper dans les aides aux entreprises. C'est entre 150 et 200 milliards d'euros. On peut peut-être supprimer quelques aides aux entreprises.
C'est ce que j'appelle le jeu de bonneteau. Parce que finalement, ces 150 milliards ne font que compenser un surcroît de fiscalisation, de prélèvements obligatoires d'une manière générale pour les entreprises. Il n'en demeure pas moins qu'en net, déduction faite de ces 150 milliards, les entreprises françaises sont parmi les plus taxées du monde. Donc le chien court après sa queue.
En net, c'est important de le préciser. Oui.
Dont prélèvements sociaux.
Oui. Dont les prélèvements sociaux, ça c'est sûr. Si vous êtes élu président du MEDEF, est-ce que vous êtes prêt à tendre la main à Dominique Carlac ?
À Dominique Carlac, très volontiers, j'ai du respect pour elle.
Travaillé ensemble. Hein.
On a travaillé ensemble en bonne intelligence. Je suis plus réservé quant à son alliance, c'est-à-dire les personnes qui l'entourent.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'un souhaite qu'on abandonne le paritarisme de gestion, ce qui serait une hérésie de mon point de vue. L'autre veut qu'on intègre massivement les micro-entrepreneurs, dont beaucoup sont par ailleurs des salariés ou des retraités. Et puis, sur un sujet de valeur, il y en a un troisième avec lequel je ne suis pas en accord.
Elle propose une semaine de 4 jours. Enfin, en tout cas, elle dit qu'il faut réfléchir à une semaine de 4 jours.
Mais elle a raison.
Elle a raison.
Non, mais vous voyez, le respect que j'ai pour elle n'a absolument pas dit qu'il fallait généraliser la semaine
Non. Elle dit il faut réfléchir à la semaine de 4 jours. Enfin, elle dit qu'il faut, en tous les cas, proposer une semaine de 4 jours et puis voir, évidemment, derrière les conséquences que ça a pour les entreprises.
Mais rien n'interdit à ce jour la semaine de 4 jours. Ça se presse.
Vous êtes favorable dans le principe ?
Non, je suis favorable à la liberté. Si certaines entreprises et leurs salariés et les représentants des salariés considèrent que sans mettre en péril le fonctionnement de l'entreprise, sans créer de l'insatisfaction chez les clients, c'est possible, pourquoi pas ? Après, est-ce que ça doit se traduire par une réduction du nombre d'heures travaillées ? J'en suis pas sûr. Mais souvenons-nous, On avait les lois d'Eurobien qui permettaient la réduction du temps de travail dans les entreprises à leur initiative. On est passé aux 35 heures. On a vu les effets ravageurs. Dominique Carlac n'a pas dit, et je ne dis surtout pas, qu'il faut systématiser la semaine de 4 jours.
Est-ce qu'il pourrait être, je ne sais pas, votre numéro 2, si elle l'acceptait, je ne sais pas. Mais après, on lui posera la question. Non, bien sûr. Non, mais vous, est-ce que vous êtes prêt
Absolument.
Oui, absolument.
Absolument.
D'accord.
Mais sous la réserve que j'ai indiquée tout à l'heure.
D'accord. Donc vous ne voulez pas de ces
Parce que je pense que sur la doctrine, sur les valeurs, je ne suis pas aligné avec eux. Je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne suis pas aligné avec eux.
Vous entendez la petite musique, la petite dynamique autour de Dominique Carlac? Ça vous fait un peu peur?
Moi, je suis en campagne jusqu'au 6 juillet. Après, j'observe les déclarations de soutien qui s'égrènent au fil du temps de la part d'électeurs. Parce que ce sont les électeurs auxquels on s'adresse.
Mais c'est pas Jean-Dominique Sénard ou c'est pas Christelle Edman.
Mais par exemple, Jean-Dominique Sénard, qui est un homme pour qui j'ai le plus grand respect et que je connais assez bien, n'a peut-être pas mesuré à qui était allié Dominique Carlac.
D'accord. Donc pour vous, ce sont ces alliés qui vous font peur. C'est uniquement ça.
Peur, non. Je ne suis pas d'accord avec eux.
Ouais. Le MEDEF que vous souhaitez, moi j'ai lu hein, votre préambule, vous dites « S'il souhaite contribuer à la prospérité du pays, le MEDEF doit être un acteur central du débat public. Ouais. » Vous considérez que ce n'était pas le cas? Là, Geoffroy Roux-Bézieux n'était pas dans le débat public.
Mais écoutez, puisque j'ai été à ses côtés très actif pendant les 5 années qui viennent de s'écouler, je peux vous dire qu'on avait une feuille de route et qu'on a été télescopé très brutalement, comme tout un chacun, hein, par gilets jaunes, Covid, guerre en Ukraine, crise énergétique. On avait amorcé la pompe d'une certaine manière en installant un comité souveraineté et sécurité économique, avec une forme de préscience, puisque malheureusement les événements nous ont donné raison. C'est dans cet esprit que je considère que le MEDEF a toute légitimité, les entreprises ont toute légitimité à s'exprimer dans le débat public, sont attendues d'une certaine manière. Quand on voit la bonne image qu'ont les entreprises actuellement, ça légitime qu'elles s'expriment. Et puis nos adhérents en ont besoin. Quand on parle des effets de l'intelligence artificielle à long terme ou à court terme, quand on parle
j'ai pas vu grand chose dans votre programme là-dessus.
Ah bah, vous n'avez pas écouté mardi, ce que je pourrais tout à fait comprendre.
Oui, oui.
Enfin, mon programme fait 55 pages, il y a probablement...
Peut-être un peu long,
Non, ça veut dire qu'il a été travaillé, qu'il est complet et qu'il est sérieux. Oui. Travaillé avec 100 élus du MEDEF, plus quelques experts extérieurs. On se doit, les entreprises elles-mêmes, se doivent de s'interroger sur les conséquences fondamentales de la démographie. Les tensions de recrutement qu'on a aujourd'hui ne peuvent que s'exacerber du fait de la démographie. On doit s'interroger sur les effets pervers d'un certain nombre de dispositifs sociaux, par exemple la prime d'activité, qui conduit à ce que certains salariés, pas massivement, mais quand même, renoncent à des augmentations de salaire parce qu'ils savent devoir être exclus de certains dispositifs publics. Voilà, tout ça, on doit le poser pour éclairer nos propres travaux, pour éclairer nos adhérents, 190 000 adhérents, 10 millions de salariés, et puis peut-être pour éclairer l'opinion publique singulièrement sur le sujet croissance versus décroissance.
Il y a un point important, vous voyez, c'est moi qui le souligne, et pourtant je sais que c'est important pour vous, ce sont les jeunes, l'inclusion.
Ouais.
Vous l'avez mentionné au début de cet entretien, mais là vous avez été hier à Marseille avec Moussa Camara, qui est le président fondateur, on connaît bien, déterminé. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a de quoi, 250 000 jeunes qui sont exclus de l'emploi?
Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, moi je suis très confiant, parce que ces jeunes qu'on maintient un peu en marge de la société, ou qui pour certains se maintiennent en marge de la société, comme les seniors, de toute façon, liés à la démographie, on va en avoir besoin. On doit s'intéresser à eux. Moussa Camara, que je connais depuis 10 ans, que j'aide, que j'accompagne, nous démontre par A plus B qu'il y a des talents, il y a des ambitions, il y a des appétits d'accomplissement chez ces jeunes, et qu'il faut se garder d'en faire un bloc en disant c'est des fainéants. C'est pas vrai. Et donc dans les quartiers nord de Marseille, j'ai vu des choses assez impressionnantes, en positif comme en négatif.
Mais pour les entreprises, il faut que les entreprises les embauchent?
Bien sûr.
Oui.
Bien, écoutez, c'est comme les lycéens professionnels, ça sera moins compliqué, mais on va se réinvestir beaucoup plus. Moi, si je suis élu, dès le mois de septembre, mobilisation générale des entreprises pour commencer sur le lycée professionnel. On le doit aux 650 000 jeunes qui sont dans ces lycées et qui, pour 60% d'entre eux, ne trouvent pas de débouché professionnel alors qu'on en a besoin.
Merci beaucoup, Patrick Martin, donc candidat à la présidence du MEDEF. Évidemment, vous pouvez retrouver cette interview avec le petit QR code qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision. Sinon, à la radio, vous pouvez aussi aller sur le site de BFM Business en replay. Et puis, on vous retrouve évidemment le 26 juin, ici, pour un débat avec Dominique Carlac. Tout de suite, François Sorel, comme tous les soirs, Tech & Co. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.